Société avec Nick Payne.
Bonjour à tous, très heureux d'être au micro pour cette nouvelle édition de Société. Nous allons parler des sujets politiques qui nous animent, qui nous intéressent, qui nous passionnent, comme nous le faisons à chaque semaine. Précisons là que exceptionnellement cette semaine, nous enregistrons vendredi midi plutôt que. Alors nous sommes 24 heures plus tôt dans l'actualité. Si jamais une éclipse, non pas solaire mais médiatique, survient dans la nuit de vendredi à samedi, vous aurez compris que nous ne sommes pas au courant. Mais on se reprendra la semaine prochaine à ce moment-là. Cela dit, c'est plutôt peu probable que ça arrive, surtout dans le monde politique. Là, bon, on prend une petite pause pour la fin de semaine, peut-être, hein, Frédéric Lapointe. Est-ce que je peux dire ça? Pas vraiment.
Ben, d'autant que le beau temps est de retour, hein, après une semaine
ben, c'est ça.
Alors, de changement médiatique.
Ben oui, je vous avais entendu Frédéric Lapointe, président du Mouvement national des Québécois. Guillaume Rousseau est avec nous également par la magie de la technologie. Guillaume Rousseau, vous êtes avocat, vous êtes auteur aussi. Hein? Vous avez publié récemment ce livre sur la pensée des Trudeau et son effet sur les jugements de cour. À lire oui. Absolument pour ceux que la politique intéresse le moindrement. Bonjour Guillaume Rousseau.
Bonjour.
Alors, merci d'être avec nous ce midi. Alors, commençons tout de suite. Allons dans le vif du sujet. Tiens, je commence avec vous, Guillaume Rousseau. Les sondages cette semaine, il faut en parler. Sondage Léger, sondage Palace. Les deux voient le Parti québécois au même endroit, 33 ou 34 % donc le vote, enfin, les intentions de vote semblent stables pour les péquistes. Ensuite, je me concentre sur Léger, là. Les choses s'améliorent un peu pour la CAQ. Enfin, disons qu'on freine la chute. Le taux de satisfaction du gouvernement est en légère hausse, mais on en est toujours qu'à 33 % à ce sujet-là. Et puis, les libéraux, Québec solidaire, environ 15 % chacun. Éric Duhaime ferme la marche à 10 %. La différence chez Palace, c'est que la CAQ serait en très légère baisse, tandis que les libéraux en forte hausse à 23 %. Nous y reviendrons dans un deuxième temps, cette divergence entre les sondages. Mais commençons, Guillaume Rousseau, par parler de... Il faut parler du Parti québécois. La semaine dernière, déclaration de Paul Saint-Pierre Plamondon sur le régime canadien qui serait hostile au Québec. Je résume comme ça le propos de M. Plamondon. Et puis, plusieurs ont dit, attention là, c'est un discours négatif, une campagne de peur. Ce n'est pas ce que les gens veulent entendre. Le PQ pourrait provoquer... Paul Saint-Pierre Plamondon aurait pu provoquer le début d'une baisse de ses appuis. Or, du moins cette fois-ci, en tout cas, ça paraît pas. Qu'est-ce que vous en pensez, Guillaume Rousseau?
Mais je pense que la stratégie du Parti québécois, c'est vraiment de mobiliser sa base. Donc, on est beaucoup plus dans un discours offensif depuis le début avec le référendum le plus rapidement possible ou en tout cas dans un premier mandat. Alors c'est dans cette foulée-là. Et bon, le ton est un petit peu plus différent. Les références historiques pouvaient provoquer un petit peu pour certains. Puis de l'autre côté, ça plaisait aux membres présents puis aux électeurs péquistes. Alors, je pense qu'on est vraiment sur une stratégie de mobilisation des souverainistes, des péquistes. Et dans un système à 5 partis, c'est ce qu'il faut faire. On va chercher le 32, 33, 34 % du vote, qui est suffisant pour avoir un gouvernement, limite majoritaire, là, mais quand même. Donc, c'est cette stratégie. Je pense pas que le PQ a besoin à ce stade-ci d'aller vraiment élargir sa base tant que ça.
Alors, ce que vous êtes en train de nous dire...
Dans un contexte de 5 partis.
Oui, Guillaume Rousseau, au fond, c'est que ce qu'on constate maintenant, c'est-à-dire pour le moment, les appuis du Parti québécois sont stables, ne veut pas nécessairement dire que ceux qui disaient que ce discours peut être coûteux électoralement pour le Parti québécois, ont tort. C'est-à-dire qu'à ce moment-ci, c'est le noyau, si on veut, du Parti québécois qui appuie le parti et lui ne peut pas être effrayé par ce genre de discours. Est-ce que c'est ce que vous nous dites? Êtes-vous en train de dire, au fond, que si on était déjà en campagne référendaire, là, il pourrait y avoir des contre-coups à tenir de tels propos, à dire que le Canada est une sorte d'ennemi pour le Québec, au fond?
Oui, effectivement. Je pense que c'est vraiment un discours qui parle à la base, qui la mobilise et en vue de l'élection, c'est la bonne stratégie. Mais effectivement, au lendemain d'une élection, quand on veut passer de 34 à 50% plus 1, voire même plus idéalement pour le camp du oui, là, c'est peut-être moins évident. Donc, attendons-nous après la possible prise du pouvoir par le PQ, un virage vers la souveraineté, partenariat et tout. Donc, et avec un ton en dessous en termes de propos très nationalistes, fondés sur l'histoire et tout. Mais je pense que c'est la bonne stratégie avant l'élection. Quoi qu'on voit que là, parce que ici, c'est un peu le verre à moitié plein ou à moitié vide pour le PQ parce que
en effet,
il maintient ses appuis, mais la hausse fulgurante semble cesser ici. Est-ce qu'il y a un lien à faire avec le discours du chef? Pas nécessairement, mais plus largement, sa stratégie très offensive, très indépendantiste, peut-être que c'est lié à ça. Donc, ça mobilise la base, ça ramène d'anciens péquistes qui ont pu voter pour la CAQ en 2022, mais peut-être que ça va pas au-delà de ça et que ça rend plus difficile d'aller chercher du 35-40%.
Frédéric Lapointe, ce que vient tout juste là de dire Guillaume Rousseau nous rappelle les titres de certains journaux qui disaient, et puis des commentateurs ont dit ça aussi cette semaine, le PQ plafonne. C'est vraiment ça. Alors, c'est vraiment le verre à moitié vide. Le verre à moitié plein serait de dire le PQ maintient ses appuis, exactement. Ou encore, on peut référer aux événements récents et dire le PQ n'essuie pas de perte suite au discours entre guillemets controversé de son chef. Qui a raison, d'après vous, là-dessus?
Lorsque les chiffres sont stables pour une formation politique, parfois ça masque des flux contradictoires. Je m'explique.
Alors, Québec... on pourrait perdre d'un côté, gagner de l'autre.
Voilà. Donc, Québec solidaire, qui dans les deux sondages confirme une baisse de leurs appuis, au-delà de la marge d'erreur, mais en proportion de leur appui, c'est quand même important. 3,
on voit
4,
que certains sont
points.
Partis au Parti québécois. Hein?
Ben, voilà. Ouais. Donc, si ces gens-là, comme on peut le penser, sont attirés par la vague de sympathie vers le Parti québécois, vers l'hypothèse d'un gouvernement du Parti québécois dont plusieurs des positions sont pas très éloignées de Québec solidaire. Là, la deuxième question qu'il faut se poser, en supposant qu'il y a effectivement un départ de Québec solidaire vers le Parti québécois, ben c'est pourquoi le Parti québécois n'augmente pas. Donc, il a perdu, disons-le grossièrement, autant de voix à quelqu'un qu'il n'en a gagné de Québec solidaire. Alors ça autorise toutes sortes d'autres analyses.
Ou de la CAQ, hein, parce qu'il y a encore des souverainistes qui quittent, qui délaissent l'appui à la CAQ pour aller vers le Parti québécois. On peut imaginer que
ça, c'est le phénomène des derniers mois, si on veut. Ouais. Mais disons, dans la révélation
tout
du sondage, c'est que le Parti québécois draine les forces de Québec solidaire, mais au total n'en gagne pas. Donc, il en a perdu pour quelqu'un. Donc, il se peut très bien que le battage publicitaire négatif autour des déclarations du chef du Parti québécois a eu un effet, mais qu'il est masqué par le ralliement de certains solidaires vers le Parti québécois.
Alors donc, si une telle chose est possible, vous n'allez pas nous dire, Frédéric Lapointe, que on a la preuve désormais que ce discours-là, qui est tourné vers l'histoire, vers les difficultés du Québec et du Canada français, en tout cas, ou du Québec dans le Canada, c'est pas la preuve que les Québécois, plus largement, là, au-delà du noyau des électeurs péquistes, désormais péquistes, en tout cas, sont prêts à entendre ça. Diriez-vous, est-ce qu'on peut aller là ou on ne peut pas à la lumière de ce sondage?
Ben, on ne peut pas à la
Parce
lumière.
Parce que ça bouge pas, en tout cas. C'est quand même, si moi je reviens au verre à moitié plein là, pour l'exercice, il n'y a pas d'effondrement, il n'y a pas de... Il y a Palace qui nous montre une montée du Parti libéral, on y arrive justement dans une seconde, mais sinon...
Il y a une part de provocation dans la manœuvre du Parti québécois et que je pense assumer. Hein, nous ne parlons que de ça depuis une semaine. Enfin, que de ça, j'exagère, là, mais les commentateurs en parlent beaucoup.
Ça
le résultat, c'est que dans la population, les gens en discutent également. Et dans la population, c'est une bonne pédagogie que de créer ces échanges. Tous ne connaissent pas bien leur histoire. Certains la connaissent davantage que d'autres. Les gens s'en parlent, par exemple, se demandent comment se fait-il que des gens pensent que les Canadiens français ou les Québécois de plus vieille souche peuvent dire qu'ils ont fait l'objet de massacres, de répressions. Je ne comprends pas. Puis là, ben là, quelqu'un qui le sait l'explique. Et là, donc, au final, la connaissance de l'histoire ou le positionnement de l'histoire dans la discussion politique s'en trouve accru. Alors que ça ait dérangé ou pas des chroniqueurs, l'effet, c'est ça. Et à terme, le fait que ce soit mieux connu et que ce soit davantage central finira, je pense que c'est le pari du Parti québécois, par avoir un effet, même si à court terme, là, ça donnait des petits frissons froids dans le dos à quelques personnes.
Guillaume Rousseau, on pourrait conclure que Frédéric Lapointe vient de nous parler un peu du phénomène de la fenêtre d'Overton, hein, c'est-à-dire cette Paul Saint-Pierre Plamondon aurait réussi à élargir le champ de ce qu'on peut dire, disons, parce que c'est ça le principe de ce concept là derrière le concept de la fenêtre d'Overton. Donc désormais, en cassant un peu en transgressant un peu, hein, Saint-Pierre Plamondon arrive peut-être à normaliser un discours et ce serait des points mis en banque en lui pour plus tard. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça va trop loin comme conclusion ou c'est de l'ordre du raisonnable?
Ce sera vérifié, je pense, dans les prochains mois, les prochaines années. Moi, mon hypothèse, c'est ça. C'est plutôt qu'on parle à un groupe plus restreint de la population. Et par exemple, moi, j'aurais imaginé un discours du chef péquiste qui aurait fait un peu de pédagogie sur ce que ça signifie de la centralisation fédérale. Quand Trudeau nous dit, justement, les champs de compétences, tout le monde s'en fout. Il y a de la pédagogie à faire, à expliquer que si un État fédéral qui grossit, c'est moins d'emplois, c'est plus d'emplois au fédéral où on peut pas travailler en français. C'est moins d'espace fiscal, moins d'État québécois où on peut vivre en français. Fait qu'il y aurait eu une rhétorique, je pense, plus moins offensive à développer, mais qui aurait été très pédagogique. Alors que je suis pas sûr que la rhétorique du discours du chef péquiste était de nature à ouvrir les oreilles des plus modérés, des nationalistes mous. Mais peut-être que je me trompe.
Ben justement, je reste avec vous, Guillaume Rousseau. Peut-être qu'on a un début de réponse dans une autre question du sondeur qui obtient des réponses très intéressantes. Si le Québec devenait souverain, demande Léger, l'avenir du français serait assuré. Êtes-vous d'accord avec cette affirmation? Et là, vous avez, je vais aller chez les francophones pour l'exercice, près de 53% qui sont en accord avec cette affirmation, 47%. Donc, on est toujours autour de la moitié, là. Pense au contraire que si le Québec reste dans le Canada, le français finira par disparaître. C'est quand même pas anodin comme élément dans la réflexion, ça. Et par conséquent, est-ce qu'il n'y a pas là peut-être l'indication que oui, on peut aborder ce genre de sujet avec les Québécois? Là, évidemment, j'ai référé aux francophones seulement. Il va de soi, hein, vous en doutez bien, que chez les allophones et les anglos, ces chiffres-là sont dans des proportions complètement autres. Alors, seulement 27% d'entre eux pensent que l'avenir du français serait assuré dans un Québec souverain, mais par contre, seulement 16% pensent que le français disparaîtra au Québec si l'indépendance du Québec ne se fait pas. Qu'est-ce que ça vous dit, ces chiffres-là, Guillaume Rousseau?
Ben, moi, j'ai toujours cru que le lien entre souveraineté et français était tellement évident. Je veux dire, évidemment, j'étais un peu un spécialiste de la question, donc des fois, je peut-être tendance à surestimer les connaissances de monsieur, madame, tout le monde, mais il me semble que c'est assez évident que le Québec a adopté la loi 101, plein de mesures pour le français qui ont été invalidées en grande partie par la Constitution canadienne. Donc, la souveraineté permettrait au Québec d'aller plus loin en termes de protection du français. Ça me paraît tellement évident que je suis surpris que les résultats soient pas plus forts que ça. Puis pour moi, ça a toujours été la rhétorique fédéraliste. Et je pense que c'était une lettre ouverte de Stéphane Dion à un moment donné qui avait fait une lettre ouverte qui disait le Québec souverain, un peu plus français, un peu moins riche. Donc pour moi, ça a toujours été ça le terme du débat, c'est-à-dire que les souverainistes ont gagné la question de la langue, la culture, puis ils seraient mieux assurés dans un Québec souverain, mais n'ont pas gagné la bataille de l'économie. Et peut-être qu'on les entend pas beaucoup là-dessus, et je pense qu'ils sous-estiment à quel point ça va revenir très fort si on s'en va vers un référendum du côté des fédéralistes. Alors c'est mon analyse.
Frédéric Lapointe, là-dessus, évidemment, il faut pas penser que si 47% des francophones pense que le français disparaîtra si le Québec ne devient pas souverain. Faut pas conclure de ça que le reste des francophones pense exactement le contraire. Hein? Là, il y a toute une série de nuances dans les réponses, mais comment trouvez-vous ça, vous, ces chiffres-là? Est-ce que ça vous paraît beaucoup ou pas tant que ça, comme vient de nous le dire Guillaume Rousseau?
Certainement, on n'aurait pas les mêmes chiffres. Peut-être que le sondage existe il y a 15 ou 20 ans. Hein, c'est l'effet des changements démographiques importants que l'on vit, qui modifie notamment les statistiques de langue maternelle, de langue parlée à la maison.
Sauf chez les grands indépendantistes, hein, eux ont toujours pensé
Exact.
Que le français, l'avenir du français était menacé dans le Canada, même au Québec.
Là. Exact, mais les statistiques n'allaient pas dans ce sens-là jusqu'à il y a une dizaine d'années. Et c'est aussi l'effet qu'elle soit judicieuse ou non, là, je suis pas dans l'appréciation, mais du discours et du battage très alarmiste, très alarmé au sujet de l'état du français. De plus en plus de gens sont pessimistes par rapport à l'issue. Ce qui me frappe le plus dans ce sondage, c'est qu'il n'y ait pas 100% des gens qui pensent que l'avenir du français est assuré en cas d'indépendance du Québec.
Ah oui?
Bien sûr.
Mais parce que ça ne vous apparaît pas simplement raisonnable, ça, de savoir, de se dire que même dans un Québec souverain, les francophones du Québec ne seront encore et toujours que 6, 7, 8, 9 millions non, sur un continent de plusieurs centaines de millions de personnes.
Un État souverain avec une langue officielle ne
surtout
voit pas.
Surtout à l'ère de la mondialisation, révolution numérique.
On s'entend, ce n'est pas le latin. Là. Bon, ouais. Les gens parlent français, les institutions utilisent le français. La probabilité dans un Québec souverain que le français disparaisse, c'est probablement la huitième décimale après le zéro. Et on peut en discuter longuement, mais ce qui est intéressant et un peu inquiétant, c'est que la population est à ce point alarmée qu'il y en a une très forte proportion, moi 40%, je trouve c'est une très forte proportion, qui pense que même en cas de souveraineté, ce n'est pas acquis. Mm-hmm. Alors, c'est vous dire que le pessimisme, le défaitisme et l'alarmisme
chez les francophones toujours
empêche la portée d'un discours de l'espoir. Des gens, si 40% des gens se disent c'est perdu de toute façon,
vous pensez qu'ils ont baissé les bras?
Ben l'option indépendantiste perd un de ses leviers importants. Et donc je pense que, et là je raisonne comme indépendantiste à partir de maintenant, je pense qu'il faut faire attention à l'ampleur de notre alarmisme. Peut-être qu'on est en train de briser notre levier par trop de pessimisme.
Oui, on connaît votre position là-dessus. Alors, vous craignez que ce genre d'état d'esprit, de vision des choses, amène des gens à faire comme Maxime Bernier, parler en anglais à ses enfants à la maison, puisque c'est
exact.
L'avenir.
Exact. Et de se dire,
on
oui,
salue M. Bernier.
Je voudrais que l'indépendance règle le problème, mais si je pense que l'indépendance ne réglera pas le problème, pourquoi l'indépendance?
Oui, c'est là que vous raisonnez comme indépendantiste, dites-vous. Guillaume Rousseau, parlons de Québec solidaire. Les libéraux, évidemment, bon, flottent à 15% chez Léger. Québec solidaire, 14%, moins 4 par rapport au sondage précédent. Alors là, il y a peut-être un effet du discours PSPP, j'en sais rien. Qu'est-ce qui se passe chez Québec solidaire? Est-ce qu'on peut voir là une chute libre ou un affaiblissement? Si oui, pour quelle raison, d'après vous, ça se produit?
Ben moi, je pense que le positionnement de Québec solidaire n'est pas bon sur les deux axes. Donc, sur l'axe des questions socio-économiques, environnementales et tout, ils sont très peu modérés, très tranchés et tout, avec des solutions souvent perçues comme irréalistes, très, très à gauche et tout. Donc ça pogne pas. Moi, je pense que les électeurs sont plus pragmatiques, plus centristes. Et sur l'autre aspect, les questions d'identité, ben là, c'est le contraire. Québec solidaire est mou sur la langue. Vous vous souvenez du 96, il votait contre, mais en même temps, il voulait plus de services publics en anglais pour les immigrants, puis tout ça est un peu alambiqué. Même chose sur la laïcité, là, dernièrement, il était... comment qu'ils ont dit ça? Donc, il était pour la disposition de souveraineté parlementaire qui protège la loi sur la laïcité contre la Charte canadienne, mais pas celle qui protège la loi sur la laïcité contre la Charte québécoise, qui est une courroie de transmission de la Charte canadienne. Donc, toujours alambiqué. Encore récemment, je sais pas si vous l'avez vu, le vote, donc Québec solidaire a pas voté, donc encore là, alambiqué, espèce de compromis bancal, a refusé de voter la motion qui dénonce là, la volonté du fédéral de faire la promotion des hypothèques islamiques, halal et tout. Mm-hmm. Donc vraiment, Québec solidaire, mauvais positionnement sur les questions socio-économiques et mauvais positionnement sur les questions identitaires. Donc ça donne des résultats de sondage. Dans les deux cas, là, le sondage ne se contredit pas. Oui. Ça va très mal pour Québec solidaire.
Mais pourquoi maintenant? On vient pas juste de découvrir les positions de Québec solidaire.
Là, c'est depuis le lendemain de l'élection de 2018. Si vous faites l'historique des sondages de Québec solidaire, là, il y a une montée 2017-2018. Le lendemain de l'élection de 2018, change de position sur la laïcité.
Sur
la position
Taylor,
de la veille.
Ouais.
La position de la veille, qui était l'interdiction du pouvoir de signes religieux aux personnes en autorité. Non seulement ils renient leur position, mais ils traitent de xénophobes, etc. Les gens qui ont la position qu'eux-mêmes défendaient quelques semaines auparavant. Et depuis ce temps-là, Québec solidaire, ça ne progresse plus du tout. Puis voir, ça descend un peu au fil du temps.
Donc, une forme de déconnexion, nous dit Guillaume Rousseau. Qu'est-ce que vous en pensez, Frédéric Lapointe? Est-ce que on peut imaginer là, que le soubresaut à la... Enfin, c'est pas le soubresaut, c'est plutôt la turbulence à la baisse toute récente là, de Québec solidaire a quelque chose à voir avec les prises de position de Paul Saint-Pierre Plamondon plus dures, entre guillemets, là, sur la question identitaire?
Non, moi, je pense que c'est l'effet de la popularité du Parti québécois, puis l'hypothèse de son gouvernement qui crée une vogue. Hein, ça devient
les Français diraient une dynamique de vote utile.
Une dynamique de vote utile, pourrions-nous dire. Puis sinon, là où la cassure est la plus nette, c'est que Québec solidaire est le parti, plus encore que le Parti libéral, hein, qui est favorable à une immigration sans limite. Hein, c'est extrêmement difficile pour Québec solidaire de dire quelle est la limite raisonnable à l'immigration.
Ben là, ils ont essayé, là, en point de presse, il y a deux ou trois jours, Rouba Gazal et Alexandre Leduc, mais oui. Bon, c'était un peu difficile, comme vous dites. Le propos n'était pas clair, mais on était quand même en train de dire qu'on pourrait modérer un peu, mais il faudrait, pour ça, faire études jusqu'en an 3000.
Il voudrait geler le nombre de temporaires.
Ah oui,
et M. Clich-Rivard, l'instant suivant, dit mais on peut pas faire ça parce qu'on n'aura pas de personnel dans nos hôpitaux, parce qu'on pourra pas. Et je ne dis pas que ces observations sont fausses. Ces observations sont probablement vraies. Mais ça n'accentue que davantage le piège dans lequel est Québec solidaire d'avoir plaidé au maximum les portes ouvertes, hein, pour garder ouvert Roxham, qui est devenu emblématique, pour dire qu'il ne devrait pas avoir de limite au rassemblement familial, à la réunification familiale, aucune limite aux réfugiés, des limites beaucoup plus élevées pour accueillir des gens de l'étranger. Donc, ce discours-là, dans un environnement où on fait la chasse aux xénophobes, ben c'est parfait, mais dans un environnement où on a dépassé notre capacité d'accueil et à peu près tout le monde est capable de pointer du doigt un effet de l'immigration massive qui va à l'encontre de ses propres intérêts.
Et dans un contexte où beaucoup de monde, et ça dépasse le Québec, est un peu fatigué de se faire traiter de xénophobe.
Exact.
C'est un mouvement au minimum nord-américain. Là.
Exact. Puis écoutez, en Ontario, les gens considèrent davantage qu'au Québec qu'ils reçoivent trop d'immigrants. Ils en reçoivent plus, hein, donc c'est une évaluation objective.
Mais ils sont à peu près les premiers au monde, si l'Ontario.
Ben, voilà. Donc même eux, hein, qui sont, Dieu sait, biberonnés, tombés dans la marmite là, de l'idéologie de l'immigration, donc même eux en reviennent. Donc pour Québec solidaire, ça devient une reculade extrêmement difficile à faire parce que la cohérence ou la cohésion idéologique est quelque chose d'important pour eux. Là, on parle pas d'un parti libéral ordinaire.
Oui, Guillaume Rousseau, un autre aspect fort intéressant de ce sondage, c'est la question de l'immigration, du rapatriement des pouvoirs en immigration au Québec. Alors là, c'est très intéressant. Les répondants, enfin les Québécois sont, d'après Léger, sont assez, aux deux tiers, hein, favorables au rapatriement d'un maximum de pouvoirs en immigration à Québec, mais ils sont majoritairement opposés à la tenue d'un référendum sur cette question. Ils s'opposent à la tenue d'un référendum, mais ils disent « s'il y en avait un, on voterait pour ». Qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que ça dit quelque chose sur le bonhomme 7 heures référendaire ou c'est plus compliqué que ça peut-être? Quand je dis le bonhomme 7 heures, hein, bien sûr, c'est le traumatisme, la mauvaise presse autour du mot référendum au Québec. Certains disent que c'est ça qu'on voit à travers ces données-là. Mais peut-être aussi que les gens se disent que on va, même si on avait un vote, un 50% plus un en faveur du rapatriement des fameux pouvoirs, peut-être qu'on réussirait pas de toute façon. Alors pourquoi aller s'exposer à une autre rebuffade, au fond? Est-ce qu'il pourrait y avoir de ça aussi là-dedans?
Ouais, ben je pense surtout que les Québécois veulent de l'action plus que des consultations, des référendums, des négociations. Le moment où la CAQ était populaire, là, c'était la séquence loi 21, loi 96. Donc, c'était pas du blabla, c'était pas des référendums, c'était de l'action avec des actions unilatérales pour que le Québec ait plus de liberté sur des questions d'identité.
Alors, ils sont en train de dire, on n'a pas besoin de référender là-dessus, là. Agissons tout de suite.
Mais je pense que c'est ce que les Québécois veulent. Ensuite, des fois, c'est pas possible. Puis là, je vous dis pas que c'est simple, mais je pense que les Québécois veulent de l'action plus que des débats, plus que du blabla. Parti québécois commençait à être populaire le jour où il y a eu ce refus de prêter le serment au roi, donc pas du blabla, de l'action. Donc ça, c'est mon premier constat, c'est ce que j'appelle l'unilatéralisme, donc l'espèce de de stratégie qui dit on agit pour étendre la marge de liberté du Québec plutôt que de parler, de négocier puis de faire toutes sortes de consultations. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième, c'est il y a possiblement une peur de perdre le référendum. Hein. Comme dans le cas du référendum sur la souveraineté, ça peut jouer. Surtout que là, le résultat du 2/3 favorable au rapatriement versus 1/3 favorable au référendum, c'était dans le même sondage. Donc les Québécois qui se prononçaient à savoir s'ils voulaient un référendum ne savaient pas qu'ils partaient avec 2/3 des appuis. Oui. Donc il faudrait voir dans un autre sondage, à la lumière du 2/3 d'appui au rapatriement des pouvoirs d'immigration, est-ce que plus de gens que le tiers voudront un référendum? C'est peut-être appelé à évoluer, mais n'en demeure pas moins que c'est extrêmement risqué, que ce référendum-là pourrait facile en théorie être pour le rapatriement des pouvoirs, mais ensuite, quand on regarde concrètement, c'est pour les réduire. C'est quoi qu'on veut réduire, là? Les étudiants internationaux, pas sûr que les cégeps et universités sont pour ça. On veut réduire les travailleurs temporaires, pas sûr que les PME et les agriculteurs vont être pour. On veut réduire les réfugiés, pas sûr que les pro-palestiniens, les pro-ukrainiens seront d'accord. Donc, je pense que c'est facile à dire, rapatrier les pouvoirs pour réduire l'immigration, mais quand on tombe dans le détail, ça risque d'être très complexe. Quand on aura le libellé de la question, on va voir que ça va être complexe. Alors, il y a peut-être une prudence des Québécois ici.
Intéressant. Qu'est-ce que vous en pensez, Frédéric Lapointe?
Il a tout à fait raison. Je n'y avais pas pensé à l'enjeu de ne pas connaître l'issue quand on se prononce sur la tenue.
Ben oui, peut-être qu'il faudrait faire un référendum pour demander aux gens s'ils veulent un référendum.
Oui, en fait, il y a une raison pour laquelle on se donne des gouvernements, c'est pour qu'ils établissent notamment un rapport de force vis-à-vis l'étranger, vis-à-vis le milieu des affaires, vis-à-vis toutes sortes de choses. Donc, ils n'ont pas besoin de notre autorisation, de notre plébiscite pour utiliser le plébiscite pour qu'on ait plus de pouvoir. Il faut mettre ça quand même au clair. Mais Guillaume a aussi raison.
Peut-être faudrait appliquer ça à la question nationale aussi. On y reviendra.
Oui, mais ça, je suis intraitable là-dessus. Notre liberté politique dépend de notre capacité d'établir ce que nous pensons d'une question, et en particulier de le faire de façon opératoire, là, comme dans le cas de l'indépendance du Québec. Toute personne qui dit que nous ne devrions jamais utiliser le référendum, ce sont des gens qui sont contre, sans le savoir peut-être, la liberté politique des Québécois. Puis ça, pour moi, c'est intolérable.
Mais alors pourquoi dans le cas de l'immigration? Parce que c'est un sujet moins fondamental?
Non, c'est-à-dire si le gouvernement croit que c'est le moyen pour atteindre des objectifs légitimes pour la nation, il ne doit pas tenir compte de l'avis de la population sur l'opportunité d'utiliser le moyen.
Et le faire.
Et bien entendu, lorsqu'il le fera, les gens se présenteront aux urnes.
S'il pense que c'est ce que ça lui prend pour avoir un rapport de force vis-à-vis d'Ottawa.
Cela étant, je ne crois pas, moi, que le gouvernement caquiste veut les pleins pouvoirs. Parce que avoir les pleins pouvoirs, c'est avoir les pleins problèmes.
C'est ne plus pouvoir dire c'est la faute d'Ottawa.
C'est ne plus pouvoir dire c'est la faute d'Ottawa. Donc là, on est dans une espèce, je le répète, de pièce de théâtre, de jeu de blâme, où il faut dire « je ne peux pas régler le problème parce que je n'ai pas les pouvoirs », blâmer l'autre gouvernement pour ce qu'il ne fait pas, mais peut-être pas tout à fait exercer les responsabilités qui sont les nôtres et surtout pas en ajouter, mais quand même ne pas le dire et dire « je veux plus de responsabilités », c'est la raison pour laquelle je ne peux pas régler le problème. Donc, vous voyez, c'est extrêmement difficile politiquement pour le gouvernement de s'en sortir parce que les moyens de régler cette question sont idéologiquement coûteux. La ministre Fréchette le disait, elle disait, il faut pratiquement penser à une économie planifiée, gérer la main-d'œuvre, gérer des secteurs industriels entiers, gérer la démographie du territoire. C'est un niveau de planification de l'économie qui va au-delà de ce que la CAQ veut faire, au-delà peut-être de ce qu'elle peut faire. Et donc, si le problème est insoluble parce que les solutions, on ne veut pas les exercer, ben là, il reste le jeu de blâme.
Qu'est-ce que vous en pensez, Guillaume Rousseau? Est-ce qu'au fond, les anglophones disent, je traduis en français, faites attention à ce que vous voulez, là. Est-ce que la CAQ, au fond, ne veut pas vraiment obtenir tous les pouvoirs en immigration?
Non, je pense qu'elle aimerait s'en obtenir plus. Pour ça aussi qu'il faudrait avoir le libellé de la question. Là, le rapatriement de tous les pouvoirs en immigration, c'est quand même difficile à imaginer parce que à partir du moment où il y a la libre circulation entre le Québec, l'Ontario, le Québec et le reste du Canada, il y a une espèce de politique commune un peu là eu égard à l'immigration dans une certaine mesure, donc c'est assez compliqué, mais je pense vraiment que le gouvernement du Québec, oui, en veut plus de pouvoir, réunification familiale, certains temporaires là, qui sont encore sous la juridiction du fédéral. Donc, il y aura place pour...
Et pour quelle raison, d'après vous, la CAQ veut quand même davantage de pouvoir? Est-ce que c'est pour des raisons d'ordre identitaire, culturel, la protection du français, ou c'est pour d'autres raisons aussi?
Ben, je pense que c'est essentiellement pour mettre des critères favorisant l'immigration francophone ou francophile, par exemple en réunification familiale, par exemple, égard aux travailleurs temporaires. Puis c'est aussi, idéalement, pour pouvoir réduire les seuils, parce que ça, c'est le problème de la politique fédérale, évidemment, qu'il y a des seuils exagérément élevés, particulièrement au niveau des demandeurs d'asile. Mais là, ensuite, les demandeurs d'asile, on contrôle pas totalement le nombre qui arrive, mais en partie par la politique des visas et tout. Donc, si le Québec pouvait contrôler ça, mais c'est pas évident, là, sauf pour un Québec souverain, que ça pourrait se faire. Ben, voilà. Donc, je pense qu'il y aura une volonté de réduire les seuils, mais en même temps, les seuils que contrôle le Québec, il réduit pas nécessairement. Donc, ça illustre toute la complexité du dossier.
En effet. Restons sur le thème. Sortons de ce sondage-là. Bon, que sinon, que dire de plus? 10% pour les conservateurs d'Éric Duhaime, là, ça ne bouge pas beaucoup. Puis les libéraux, ben, toujours sans chef. Quoique, nous avions promis de parler de Palace un instant, Frédéric Lapointe. Oui. Donc, ce sondage diverge. Lui, principalement là, publié la même journée que le Léger, d'ailleurs, il voit les libéraux passer devant la CAQ à 23%. Et selon Philippe J. Fournier de Québec 125, la divergence entre les deux sondages viendrait du fait que chez Palace, on mesure une forme de ralliement très fort chez les anglophones autour du Parti libéral. Alors, on peut imaginer un contre-coup, un effet du discours des sorties de Paul Saint-Pierre Plamondon.
Oui.
Est-ce que ça vous apparaît vraisemblable comme thèse?
C'est possible. Évidemment, le premier sondage qui témoigne d'une tendance contraire à ce à quoi on s'est habitué depuis des mois.
Je vous interromps une seconde pour nos auditeurs. Palace, c'est tout neuf.
Oui, hein?
C'est une firme torontoise qui sonde au Québec depuis un an ou deux maximum. Là. Voilà.
Mais il arrive que le sondage erratique est celui qui a raison. Et là, je vais aller chercher mon exemple loin, mais je suis convaincu que nos auditeurs se souviennent de l'élection de 1998 entre Lucien Bouchard et un jeune Jean Charest, où Lucien Bouchard était prédit comme l'emportant haut la main. Les sondages le donnaient en avance tout le temps, sauf à quelques jours, quelques semaines de la fin, un sondage crop, hein, qui donnait les libéraux tout juste un peu en avance sur les péquistes. Et comme c'était le seul sondage donnant ce résultat, crop eux-mêmes ont dit « Ah, ben on s'excuse, c'est probablement une erreur statistique. » Or, c'est le sondage qui était le plus proche
du résultat final. Une erreur ou simplement une aberration. Mais c'est eux qui avaient raison.
C'est eux qui avaient raison.
Les péquistes ont quand même gagné, mais avec moins de votes que les libéraux.
Exact. Donc, on le saura lorsqu'on regardera les prochains sondages, mais c'est absolument pas hors de ce monde que de penser que la CAQ s'affaiblissant avec le temps, perdant essentiellement son électorat nationaliste vers le Parti québécois, que l'électorat non nationaliste résiduel à la CAQ examine ses options, et leurs options, elles sont pas nombreuses. C'est le Parti conservateur d'un côté ou c'est le Parti libéral de l'autre. Le Parti libéral a des très bonnes chances d'aller gruger ce qui reste d'électeurs à la CAQ.
Qu'est-ce que vous en pensez, Guillaume Rousseau, cette divergence entre les deux sondages? Précisons que Philippe J. Fournier, c'est celui qui a commandé le sondage, hein, mais il dit qu'il a été lui-même, il disait ça à Radio-Canada hier ou avant-hier, là, surpris, mais en y regardant de plus près, il a vu que donc Palace détecterait ce mouvement de ralliement des électeurs anglophones autour du Parti libéral. Est-ce que ça vous apparaît vraisemblable à vous?
Oui, c'est possible, parce qu'il y avait eu un déplacement du vote anglophone du Parti libéral au Parti conservateur d'Éric Duhaime. Donc là, le PCQ étant un petit peu plus bas que d'habitude dans les deux sondages, particulièrement dans le Palace, peut-être qu'il y a là une explication, mais sinon, je pense qu'il faut être prudent, puis considérer que Léger a plus d'historique de sondages qui prédisent assez bien les élections qui suivent. Et comme le résultat du dernier Léger est proche de celui des sondages précédents, je pense qu'on peut présumer que c'est celui-là qui est plus juste. Le Palace, attendons les prochains. Peut-être qu'il annonce une tendance avant les autres, mais peut-être aussi qu'il est un peu moins bon que les autres. Il y a quelques mois, un Palace avait donné les conservateurs sur la scène fédérale au Québec très fort. Puis finalement, ça n'a pas été confirmé par des sondages suivants, donc restons prudents.
En effet, c'est un bon exemple. Vous avez tous les deux effleuré le cas des conservateurs d'Éric Duhaime. Précisons, là, on n'y pense pas toujours, mais ils sont avant-derniers chez les francophones, hein, avec un très maigre 8% chez Léger. Ça, c'est juste
deuxième chez les anglos.
Oui, exactement, 17% chez les anglophones. Alors, effectivement, peut-être qu'il y a des anglophones stationnés là qui peuvent facilement retourner au Parti libéral.
Mais paradoxalement, c'est le 8% chez les francophones qui va leur donner plus de sièges parce qu'il est concentré dans la région de Québec, où l'affaiblissement de la CAQ, quand on regarde les sites de projection, donne au Parti conservateur 4, 5, 6 sièges, même s'ils ont moins de votes que lors de la dernière élection.
Je reste avec vous, Frédéric Lapointe. Parlons un instant de la question du référendum, non pas celui sur l'immigration, le référendum que Paul Saint-Pierre Plamondon annonce sur l'indépendance du Québec. Plusieurs voix s'élèvent, ou encore elles n'ont jamais cessé de se faire entendre. Il y avait Christian Dufour cette semaine dans la presse. Lui, c'est son propos depuis fort longtemps, depuis des décennies. En fait, lui, il dit, c'est irresponsable de s'engager comme ça à tenir un référendum, à annoncer à l'avance qu'on va le faire. Bref, il est un peu dans le... Mm-hmm. Il prône un peu ce qu'a fait le Parti québécois après 95, là, jusque vers 2018, mais avec des arguments forts, en disant une défaite serait vraiment catastrophique pour le Québec, en disant aussi que, il faut pas non plus agir sur le coup de la panique. C'est pas parce qu'actuellement la démographie inquiète qu'il faut pour autant se précipiter en pensant que dans 10 ans, la chose ne sera plus possible.
Ben, je suis d'accord avec sa deuxième affirmation. Je le dis tout de suite, pas d'accord avec la première.
Non. Ben oui.
Parce qu'effectivement, l'avenir dure longtemps. S'il y a une vague d'immigration aujourd'hui au Québec, ben, cette vague sera, j'ose dire, influencée, digérée, intégrée au fil des décennies. Puis on ne sait pas où on sera dans 30 et 60 ans. Donc, il ne faut pas être fataliste sur la possibilité pour le Québec d'obtenir son indépendance. Je me souviens que la Lettonie a obtenu son indépendance en 1991. Les Lettons étaient presque une minorité dans leur propre pays lorsque c'est arrivé.
Alors, ça nous rappelle quelque chose.
Gardons espoir.
Mais est-ce que c'est, oui, irresponsable
non.
ou candide?
Non.
Le Parti québécois aujourd'hui est à 33 ou 34 % des voix. Il pourrait prendre le pouvoir avec un tel appui. C'est très, très loin de 50 % ouais. plus 1. Il y a également la question de, Guillaume Rousseau l'évoquait tout à l'heure, ce message qu'on envoie à l'électorat, c'est-à-dire votez pour nous pour changer de gouvernement, puis vous voterez non plus tard à l'indépendance, tout simplement.
Ce qui est correct.
Oui, mais est-ce qu'il n'y a pas des contre-coups?
La liberté politique, c'est ça aussi.
Est-ce qu'il n'y a pas un prix à payer à ça? Dufour dit, ben là, si ça arrive, on va nous traiter comme un groupe ethnique pendant 100 ans encore.
On nous traite déjà comme ça. Hein?
Ben oui,
je pense qu'il est... Donc, ce qu'il craint est déjà acquis. Alors, je ne pense pas qu'il y a une perte, mais deux volets à son propos. Le premier, c'est que ce qui est irresponsable, c'est d'exclure le référendum. Et je vous remonte cette fois-là, plus loin, là, dans les années 70.
Mais c'est pas ce qu'il dit, lui. Il dit qu'il faut que ce soit un moyen parmi d'autres, mais il ne faut pas promettre.
L'ambiguïté stratégique, je veux bien. Là. Mais dans les années 70, si on n'avait pas promis un référendum sur la souveraineté du Québec, si René Lévesque n'avait pas été élu en 76, le rapatriement de la Constitution serait probablement survenu plus tôt. Hein, donc, oui, c'est arrivé après, mais c'est arrivé après parce que Trudeau a fait un retour en politique inopiné et a eu l'occasion de le faire. Mais si vous aviez à jouer les dés en 1977, la probabilité, c'était qu'il n'y aurait pas de rapatriement de la Constitution parce que Trudeau ne veut pas le faire avant le référendum. Trudeau
donc, vous êtes battu. En train de nous dire qu'une défaite référendaire, c'est pas si grave
que
ça.
Donc, ce que je veux dire, c'est que c'est pas la défaite référendaire de 1980 qui entraîne le recul historique de 1982. Non, c'est la présence du référendum qui a remis en cause et qui a reporté et qui aurait peut-être empêché le rapatriement de 1982. Donc, quand on veut refaire des stratégies, refaire le passé, il faut rejouer toutes les parties. Il faut faire du wargaming complet. Je suis pas sûr que le politicologue le fait au complet. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que nous ne pouvons pas, sauf espérer des sautes d'humeur de l'histoire, ne pas préparer la tenue d'un référendum. Ça s'improvise pas.
Entre s'y préparer et la garantir, la promettre. Voilà.
Je pense qu'il nous faut se donner une échéance crédible, claire, pour que la population mentalement s'y prépare, pour que les organisations s'y préparent, pour que le parti politique qui le porte s'y prépare, pour que la fonction publique s'y prépare. Alors, ces choses ne s'improvisent pas et elles ne se produiront pas dans l'ambiguïté, dans l'incertitude, dans l'évasion. Non, en fait, puis les commentateurs politiques parlent du gain électoral lié à la clarté. J'en suis, le fait que le Parti québécois est clair.
Ça, c'est nouveau comme discours. Autrefois, on disait, si on promet un référendum, il y aura des coûts, un prix électoral à payer.
C'est ça. Donc, il faut faire la démonstration pour que les analystes changent. C'est une autre leçon à en tirer. Mais moi, je suis même pas là-dessus. La clarté référendaire qui aide le Parti québécois électoralement qui m'intéresse comme président du Mouvement national des Québécois en particulier, mais bien que cette clarté nous entraîne à prendre nos responsabilités.
Bon, alors justement, Guillaume Rousseau, à l'inverse, là, je présentais le point de vue de Christian Dufour et plusieurs autres tout à l'heure. Il viendra sans doute à ce micro nous l'expliquer mieux que je ne l'ai fait moi-même, mais en attendant, est-ce qu'on peut dire donc à l'inverse que cette clarté, cet engagement concret, là, assumé des péquistes, peut avoir un effet structurant là, sur la vie politique québécoise et rebrasser les cartes et amener, par exemple, voilà, la CAQ à s'affaiblir et les libéraux éventuellement à reprendre de la force. Et puis, à partir de là, donner des résultats qui, sans nécessairement être ceux de l'indépendance à court terme. Là. Qu'est-ce que vous en pensez?
Oui, ben moi, je pense que c'est la bonne stratégie pour le Parti québécois pour prendre le pouvoir. Je veux dire, les sondages nous indiquent qu'il y a différents facteurs, mais l'engagement clair à tenir un référendum aide manifestement le Parti québécois dans les sondages. N'aide pas la souveraineté, ça qui stagne autour de 35%. Donc, voilà, c'est une stratégie qui semble mener. Puis après ça, évidemment, l'histoire n'est pas écrite d'avance, ça peut évoluer et tout, mais pour l'instant, tous les sondages depuis plusieurs mois maintenant indiquent une victoire probable du PQ suivie d'un référendum perdant. Voilà, ouais. Voilà ce que nous disent les sondages. Et là, d'où le propos de M. Dufour. Moi, sur le rapatriement, je fais pas de l'histoire fiction. Ce que je sais, c'est qu'il y a eu un référendum perdant suivi d'un rapatriement. Ça, on le sait. Ce qui serait arrivé dans d'autres scénarios, on ne le sait pas. Donc, moi, je considère qu'un référendum perdant, c'est quand même pas quelque chose de banal.
D'anodin. Les suites de 95 sont une sorte de longue glaciation. Oui.
Et tout. Donc là-dessus, sur l'ambiguïté stratégique, par contre, je suis pas d'accord avec M. Dufour. Je pense pas que c'est fini. Ça a été essayé.
On a compris que ça marchait pas. Ben oui.
Mais non, ouais. C'est ça. Ça marche pas. Puis même encore aujourd'hui, le chef d'équipe est pas si précis. Il dit référendum dans le premier mandat, mais on sait pas quand. On comprend que ce sera probablement plus un scénario à la 1980, donc en fin de mandat. C'est peut-être, en tout cas, c'est ce que je comprends, parce que quand on le promet pas rapidement, ben, on se garde la porte ouverte.
Oui, mais il dit il faut l'organiser, il faut le préparer comme il faut. C'est le plus tôt possible. C'est un peu le discours de Bernard Landry à une autre époque. Alors, ça, le plus tôt possible, ça ne veut pas dire au début, mais ça ne veut pas nécessairement dire à la fin non plus.
Donc, ça tranche avec la stratégie de Parizeau de 95, ouais. qui vraiment voulait le faire très rapidement. Finalement, ça a été un an plus tard. Tant qu'à lui, ça aurait été 6 mois. Donc, on n'est pas là-dedans. Puis ça change tout, parce que si on voulait quelque chose très rapidement en 2027, ben là, ça forcerait le Bloc à se positionner à la fédérale de 2025, tandis que là, si on parle d'un possible référendum vers 29-30, à l'élection de 2025 du Bloc, ça joue pas nécessairement. Donc, pour moi, ça change tout, là, dans un premier mandat versus la première année. Donc, il reste un petit peu d'ambiguïté stratégique, là, au niveau du PQ.
Vous savez,
et
Guillaume
Rousseau, il y a un scénario 1980 qui est pas exclu.
Vous savez que les études montrent, pour ceux pour qui ça n'irait pas de soi, là, d'instinct d'emblée, que plus la période de gouvernance pré-référendaire est longue, plus les référendums sont perdants. C'est comme ça partout dans le monde, dans l'histoire des référendums.
C'est une autre raison pourquoi je trouve que la stratégie du PQ est très risquée par rapport au référendum. Par rapport à la prise du pouvoir, là, vraiment, il y a une hyper bonne stratégie. Je pense qu'il faut, faut reconnaître là, les talents de stratège des péquistes depuis 2-3 ans.
Mais c'est embêtant parce que l'un va pas sans l'autre, c'est la même stratégie.
Ça va être l'usure du pouvoir, des politiques très à gauche, il va y avoir des augmentations de taxes, des déficits, toute la droite nationaliste dont les péquistes ont besoin pour le oui, ça va être extrêmement difficile. L'alliance avec QS, ça va être très, très repoussoir pour des électeurs de centre-droit. Donc, effectivement, plus ils attendent pour le référendum, plus ils seront perdants. Je pense que la meilleure stratégie serait de le faire rapidement dans un premier mandat.
Je reste avec vous un instant, Guillaume Rousseau, pour la dernière question là-dessus, mais c'est vraiment la question à 1 000 à 100 000 là, qui se pose de façon récurrente là, dans le mouvement indépendantiste, mais qui est intéressante néanmoins. Et c'est une question à laquelle Jacques Parizeau n'avait aucune difficulté, aucun complexe à répondre. Ben moi, je m'en fous une façon ou l'autre. Alors, je vous explique. La discussion que nous venons d'avoir, vous et moi et Frédéric Lapointe, porte sur l'indépendance par référendum, est-ce qu'on le promet ou non? Mais est-ce qu'on pourrait poser la question de l'indépendance par référendum ou pas par référendum? Parizeau, lui, disait, moi, je suis à l'aise avec les deux. Il le disait encore à la fin de sa vie, vers 2014. Il disait, ben, autrefois, nous avons fait le choix du référendum, mais ça pourrait aussi se produire autrement. Est-ce que c'est une question seulement pour les ahuris, les farfelus, les drôles de pistolets qui sont dans les coulisses du mouvement indépendantiste et qui rêvent d'une voie rapide vers l'indépendance, ou est-ce que on se trompe en la balayant du revers de la main?
Ben moi, je pense que le débat est clos au Parti québécois. Donc, clairement, M.
Saint-Pierre-Plamondon
promet un référendum. Puis même dans les courses à la chefferie, je me souviens jamais d'avoir vu un candidat dans une course à la chefferie du PQ, puis Dieu sait qu'il y en a eu beaucoup là jusqu'à il y a 2-3 ans. Vraiment un candidat qui aurait promis l'indépendance sans référendum et qui aurait monté assez haut dans les sondages, qui aurait été un candidat qui aurait pu emporter une course à la chefferie du PQ. Donc pour moi, c'est une idée qui a pas de voilà, qui a pas d'avenir, qui a pas de
tirando. Mais je vous pose la question quand même, parce qu'on est dans une sorte de d'impasse. On dit, bon, il faut s'engager à faire un référendum parce que c'est la voie de la cohérence, puis ça permet au Parti québécois de prendre le pouvoir. Mais après, on est presque sûr de le perdre, ou en tout cas, c'est ce qu'annonce pour le moment les chiffres. Alors, est-ce qu'il n'y a pas, au fond, voilà, cette question-là qui se pose, est-ce qu'il faut absolument faire un référendum dans un contexte notamment démographique de plus en plus compliqué?
Ben, je pense que le PQ, son lit est fait, son historique fait que voilà, c'est le référendum souveraineté, tout ça est associé. Ce qu'on pourrait imaginer qui pour lequel il faut peut-être pas fermer la porte, ce serait une espèce de scénario à la Charlottetown, à la Meech, donc un parti nationaliste qui échouerait dans sa réforme du fédéralisme. Et là, il y a une importante hausse d'appui à la souveraineté. Et là, il y a une démarche souverainiste non référendiste. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut imaginer, mais qui se prévoit pas d'avance. Donc c'est quelque chose qui, donc faut pas exclure en termes de réflexion intellectuelle, de constitutionnaliste, d'internationaliste.
Mais c'est très pointu.
Cette possibilité là, mais c'est pas le contexte actuel et c'est pas le Parti québécois qui est pas ce parti qui pourrait faire une tentative de réforme du fédéralisme qui échouerait. Là, je comprends qu'il y a eu le beau risque, mais c'est un contexte particulier. Alors, je pense que pour le PQ, c'est un débat qui n'existe pas.
Alors, ce que vous êtes en train de nous dire,
c'est qui se réaliserait autrement, peut-être.
C'est que théoriquement, ça pourrait toujours être possible dans le cas où il y aurait un vaste mouvement d'appui à la souveraineté qui surgirait. Qu'est-ce que vous en pensez, Frédéric Lapointe? Je vous repose la question. Référendum sur l'indépendance, maintenant ou plus tard? Ou bien indépendance avec référendum ou non?
Oui, ben sur le délai, je pense que c'en est un de préparation. Jacques Parizeau, en 1994, était prêt. Hein? Ça fait 20-30 ans qu'il est dans l'appareil, il y a ses réseaux, tout ça. Je pense pas que le Parti québécois peut être prêt dans le même délai lorsqu'ils vont arriver au pouvoir. Donc, il y a juste une dose de réalisme, je pense, qui commence à être énoncée publiquement. Sur la question du référendum ou pas...
Oui, et j'amène, avant que vous répondiez, pensé, vous vous souvenez de Bourgault, hein, qui était catastrophé de ce recours au référendum, qui était opposé, puis qui s'est rallié en disant, bon, ben là, maintenant qu'il y a une campagne référendaire, je vais participer. On a beaucoup blâmé Claude Morin, hein, chez les souverainistes, on disait cet homme payé par la GRC introduit le référendum pour nous faire perdre. Hein? Il y en a qui disaient ça. On est peut-être dans la théorie du complot.
La réalité, c'est que si vous ne vous battez pas pour les urnes, vous allez vous battre dans la rue. La réalité raide, frette, sec, c'est celle-là.
Alors, si par exemple, vous essayez de réaliser l'indépendance, vous n'avez pas eu
votre d'autres moyens qui ne sont pas acceptés, parce que la population qui est en désaccord doit se soumettre pour que ça se passe bien. Alors, par quel moyen se soumet-elle? Et par un arbitrage démocratique dans un cas ou, autre option, s'il y a une telle chose qu'un divorce de velours, c'est-à-dire pour toutes sortes de raisons
la
qu'on
Slovaquie,
peut imaginer, Slovaquie, Tchécoslovaquie, le Canada veut que le Québec parte, le Québec, la partie gouvernementale est d'accord pour partir, et là, ben, il négocie les termes, et là, ben, là, on se dit, ben, on peut-tu vraiment prendre le risque qu'une des deux populations dise non à un état de fait? Et là, ben, il y a personne qui s'y oppose.
Parce on est loin de ça.
Il y a une espèce d'état de fait. Mais on est loin de ça.
On pourrait toujours envoyer Geneviève Guilbeault dire soyez docile.
Ouais, c'est ça. Ouais. Mais je pense qu'il faut cesser de chercher une balle d'argent procédurale pour contourner la volonté populaire. Parce que la volonté populaire, je le répète, si ce n'est pas dans les urnes qu'elle se joue, elle va se jouer ailleurs. Puis ça donne pas des scénarios très favorables.
Parce qu'on voit bien que les Québécois ont vraiment une réticence au référendum. D'ailleurs, avant 95, il y avait un un sondage de Léger aussi qui, de mémoire, donnait 63-64% d'opposition à la tenue de, du référendum. Ça n'a pas empêché un taux de participation de 95% par la
c'est
suite.
C'est ce que je disais tout à l'heure. On demande pas, on fait pas un plébiscite pour tenir un référendum. Là. On fait ce qu'il faut pour que la liberté politique des gens s'exprime.
Alors, trêve de questions théoriques. Guillaume Rousseau, étude de l'OQLF publiée tout récemment, qui vient un peu contredire l'étude précédente là, dont on a parlé il y a deux semaines, une quinzaine, oui, c'est ça, 10-15 jours.
Oui.
Alors, il y a 15 jours, on disait le français comme langue d'usage public se maintient, se porte plutôt bien. Puis là, maintenant, ce qu'on dit, c'est l'accueil d'abord en français dans les commerces montréalais étant... Alors, c'est vraiment une chute libre hein, en termes statistiques. Là, on est passé, on a perdu 13 points en 13 ans, de 84 à 71 %. Est-ce que l'une contredit l'autre, d'après vous, oui ou non? Et puis, qu'est-ce que ça veut dire, tout ça?
Ben, je pense que le sondage d'il y a 2-3 semaines était problématique, là, puis ça a été soulevé par différentes personnes, donc Guillaume Marois, qui est un de nos grands démographes. Donc, c'est un sondage où il y avait un très faible taux de répondants, je pense, autour de 30%. Fait qu'on peut penser que ceux qui parlent moins français dans l'espace public sont ceux qui ont refusé de répondre. En tout cas, il y avait un
paquet de problèmes. Oui, en fait, il y avait 77% de non-réponse. Hein?
Bon, c'est pire que je pensais. Ouais. Donc, c'est pas 70, mais 77. Donc, voilà. Donc, c'était assez problématique, et alors qu'il y a moins de problèmes méthodologiques là, avec le sondage plus récent. Puis l'autre chose qu'il faut voir, de toute façon, au débat de la langue, c'est pas de savoir c'est quoi la bonne donnée, parce que ça, c'est le bon indicateur. Si on pourrait en débattre, le gouvernement annonce qu'il va surveiller les langues parlées à la maison, langues maternelles, plus certains se sont choqués par ça, alors que l'idée, c'est d'avoir beaucoup de données, beaucoup de sondages, puis à la lumière de tout ça qu'on peut se faire une idée, un portrait plus juste de la situation. Puis ce qu'on voit avec ces deux sondages-là, c'est que dans le meilleur des cas, dans le meilleur sondage, la meilleure enquête pour les jovialistes, ceux qui sont plus positifs sur l'état du français, ben dans le meilleur des cas, on dit que c'est une stabilité, alors que dans les sondages moins positifs, là, on voit vraiment un recul du français. Donc, quand on met tous ces sondages-là ensemble, c'est assez évident qu'il y a une forte fragilité là pour le français.
Qu'est-ce que vous en pensez, Frédéric Lapointe? La chute démontrée par la dernière étude est forte tout de même. On parle ici de l'accueil en français d'abord hein, dans les commerces, parce qu'ensuite, les gens comme André Pratt se sont précipités pour dire « Oui, mais voyez, si vous objectez, si vous faites des pieds et des mains, il y a toujours quelqu'un pour vous répondre en français, puisque effectivement, il y a moyen d'obtenir du service en français dans au-dessus de 90-95% des cas. » Est-ce que ça vous satisfait, ça?
Ben, c'était rassurant. Que cette statistique, parce que mon expérience à Montréal, c'est pas 95-97%, mais en même temps, c'est une statistique
c'est curieux,
québécoise,
hein?
C'est ouais. pas seulement Montréal, c'est pas seulement le centre-ville. C'est le 3-5% de non-service en français est concentré dans certains quartiers. Mais on peut quand même penser que par rapport à d'autres époques, c'est plus faible. Donc, il y a un effet de l'apprentissage du français par un grand nombre, y compris d'anglophones, qui donne un service en français lorsqu'exigé. Hein, la nuance est importante.
Oui, mais je vous pose la question, est-il possible que les deux études aient raison, malgré les bémols qu'on a par rapport à la méthodologie là, de celle d'il y a deux semaines qui disait que ça allait bien? Là, est-il possible qu'effectivement, nous soyons en train d'atteindre une sorte de sommet là, dans la quantité de gens capable de s'exprimer minimalement en français dans l'espace public et qu'en même temps, par ailleurs, le français soit en train de perdre son statut de langue commune progressivement, en tout cas, au moins à Montréal.
Ben, disons, de langue commune exclusive, pour laquelle nous avions réalisé des progrès importants dans les années 80, 90, début 2000. Mais disons que ce n'était pas la langue normale du commerce, le français, il y a 50 ou il y a 75 ans. Et nous avons un défi devant nous du fait que nous accueillons des centaines de milliers de personnes, peut-être des millions hein, au fil des années. Alors oui, on a une période qui va être difficile, qui va paraître dans les statistiques. Forcément, le nombre de personnes qui ne maîtrisent pas le français va augmenter. Forcément, les gens vont vouloir parler en anglais avec ceux qui ne parlent pas le français. C'est un peu inéluctable. On le verra dans les statistiques. Je pense qu'il faut tenir la barre fermement. et que au bout d'un certain temps, on verra ces statistiques prendre l'autre direction. Mais ce sera long. Je pense qu'il faut faire preuve de persévérance tout en restant respectueux là, avec toutes nos communautés, évidemment.
À suivre. Consacrons les 4 dernières minutes de l'émission à un sujet. Alors, Guillaume Rousseau, on connaît vos états de service dans le dossier de la laïcité. la question des hypothèques halal ou islamique. Il faut lire Hélène Buzetti d'ailleurs là cette semaine pour comprendre un peu comment ça fonctionne. Madame Buzetti nous explique que la finance islamique est un phénomène là en soi qui touche le crédit, l'assurance, les placements. On enseigne la chose dans les universités. La Grande-Bretagne a plusieurs banques, dit-elle, 100% islamiques. Et puis maintenant, on lorgne le Canada hein, pour comme la prochaine étape, si vous voulez, de cette islamisation de la finance, peut-être. Alors, il existe même des cartes de crédit islamiques. Il y a même une cote boursière, un Standard & Poor's qui a sa version halal. C'est le S&P Sharia. Donc, on y cote des entreprises qui n'opèrent pas dans les secteurs interdit par la foi musulmane, donc l'alcool, les jeux de hasard, la pornographie. Plus largement, donc, l'hypothèque islamique, c'est le fait de financer votre maison par un... Le financier achète la maison et puis il vous la revend plus cher et vous payez les frais pour faire comme si vous n'étiez pas en train de payer de l'intérêt, puisque c'est ce qui pose problème. Et là, il y a différents modèles, différentes façons de structurer la chose. Et donc, le gouvernement Trudeau, parce que c'est les gens qui ont recours à de telles hypothèques ne sont pas éligibles, par exemple, pour la SCHL. Ils paient plus cher, les taux d'intérêt sont plus élevés. Donc, Trudeau envisage d'encadrer tout ça. En d'autres termes, comme le dit François Blanchet, de faire entrer la charia dans le droit canadien. Enfin, c'est ce que disent plusieurs. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Guillaume Rousseau? Est-ce que c'est vraiment là qu'on s'en va?
Oui, manifestement, puis il y a deux niveaux d'analyse. Il y a d'abord sur le plan des principes. Donc, on a un État qui décide d'adapter ses règles. C'est ce qu'on comprend entre les lignes là, de l'orientation du budget freeland. Donc, soit adapter les règles ou sinon faire la promotion de ce type d'hypothèque-là parce que là, il y a le volume plus limité fait en sorte qu'il n'y a pas d'économie d'échelle. Ça revient plus cher pour différentes raisons. Mais bref, on veut soit adapter les règles et ou en faire la promotion à partir de l'État fédéral pour qu'il y ait un plus grand volume d'épargnants, là, de propriétaires de maisons qui puissent se prévaloir des hypothèques islamiques. Donc, dans les deux cas, il y a comme une espèce d'intervention de l'État, d'influence de la religion dans les politiques de l'État, ce qui est un peu beaucoup le contraire de la laïcité. Donc, sur le plan des principes, ça pose problème. Puis ensuite, il y a très concrètement l'effet que ça peut avoir. Ben, on imagine facilement qu'à chaque fois que l'État donne raison à la frange la plus militante, la plus pratiquante d'une communauté religieuse.
La pression sociale,
Ça donne raison à la frange la plus rigoriste, qui ensuite se tourne de bord pour faire pression sur les moins pratiquants pour qu'ils se commencent à pratiquer comme les plus pratiquants. Donc, attendez-vous dans les prochaines années à ce que des musulmans modérés, très peu pratiquants, se fassent achaler par des musulmans plus rigoristes. Donc ça m'apparaît assez évident. Puis enfin, il y a le risque aussi d'une espèce d'exploitation, là. Donc, on peut facilement imaginer des gens qui diront, ben si vous prenez pas notre type d'hypothèque islamique qui coûte plus cher, ben vous allez en enfer. C'est ça aussi la rhétorique. Évidemment, tout ça
là, c'est un peu la même chose,
par des règles plus générales de protection des consommateurs vulnérables et tout, mais c'est ça le risque également, et je pense qu'il faut le dire.
En un mot, il reste 20 secondes, Frédéric Lapointe.
La religion chrétienne condamnait les prêts usuraires également. Je pense qu'on se rendrait tous service en n'appelant pas ça des prêts islamiques, mais simplement des prêts sans intérêt.
Mais c'est comme ça qu'on veut les appeler, hein. Ce sont même pas les critiques.
Le problème est peut-être là.
Oui.
D'y tenir.
Parce que ce sont les intérêts usuraires qui sont condamnés dans l'islam, sauf que, pour certains, les intérêts tout court le sont. Enfin, bref, merci beaucoup, Frédéric Lapointe, d'avoir été avec nous ce midi. Merci beaucoup, Guillaume Rousseau, d'avoir été avec nous à distance. C'est toujours un plaisir de vous entendre. Merci à Valérian Fournier, à la mise en onde. Merci. Surtout, merci à vous, chers auditeurs, d'être si nombreux et si fidèles à l'écoute. C'est vraiment un privilège que nous avons. Et nous entendons bien ne pas en abuser non plus en essayant de vous présenter la meilleure émission possible. À samedi prochain.